Alors, difficile de commencer cette petite présentation d'une personne qui a eu autant d'influence sur l'univers des logiciels qu'est M. Richard Stallman. On rappellera la fameuse anecdote que M. Richard Stallman, alors qu'il avait trouvé un moyen ingénieux de pouvoir améliorer un pilote d'imprimante HP, a souhaité faire profiter de sa trouvaille à un certain nombre d'utilisateurs et malheureusement s'est heurté aux limites, on va dire, de la propriété intellectuelle, du système propriétaire de la propriété intellectuelle, et c'est pour ça que nous avons eu son mot d'introduction fort sympathique qu'il m'a adressé. Et donc c'est des drivers de l'imprimante de la marque Hewlett-Packard, on va la citer, M. Stallman corrigera si je me trompe, on a abouti à une forme partagée d'exploitation des logiciels qu'il a baptisée la GNU, GNU for Unix. Richard Stallman a créé une association fort influente qui est la Free Software Foundation. La Free Software Foundation qui fait justement la promotion d'un système, d'un modèle, en tout cas de licences, les licences libres portant sur des logiciels dits libres. Alors on verra ce que recouvre ce terme et toutes les difficultés, ou peut-être pas de difficultés, peut-être que c'est moi qui me trompe, comme dirait M. Stallman, qui gravite autour de cette notion. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, le GNU Linux, on m'a prévenu qu'il fallait bien que je dise GNU Linux, so I hope I'm correct about that. Le GNU Linux devient une réelle alternative aux operating systems propriétaires tels que Unix et Windows. Ce qui est également clair, c'est qu'il existe une multiplicité des licences libres. La plus connue est certainement la GNU Linux, mais souvent on parle aussi d'open source. Il s'avère que l'open source a été promu par une autre organisation qui n'est pas la Free Software Foundation et repose sur 10 critères distincts. Se pose donc la question un petit peu de l'individualité de la licence libre face aux licences open source, comment les distinguer? Je suis sûr que M. Stallman pourra justement mieux nous éclairer à ce propos. Ce qui est clair, c'est que la licence GPL fondée par M. Stallman, à ce jour, est la plus connue. Alors cette licence, justement, elle s'attache à défendre 4 libertés font qu'un logiciel sera considéré comme libre, et qui ont été définies par M. Stallman. La première, c'est celle d'exécuter le programme pour n'importe quel usage. La seconde, c'est d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à ses besoins, ce qui implique d'avoir évidemment l'accès au code source. La troisième, et c'est là qu'on rentre dans du croustillant, la liberté de redistribuer les copies, pouvoir diffuser sa trouvaille. Ce qui semble en contradiction avec notre conception française de la propriété intellectuelle qui n'existe pas.
Non. Est-ce que vous pouvez me laisser dire ces choses?
Yes, ok. Donc je vais tout de suite à la fin. Est-ce qu'il faut arriver sur une abolition de la propriété intellectuelle? Là, je vous laisserai répondre. Est-ce qu'il faut considérer que le brevet, c'est un ennemi de la créativité? Il y a des difficultés autour du terme libre, puisque libre ne signifie pas forcément gratuit. Ce qui est clair, c'est que M. Stallman a aussi défendu une idée qui était intéressante, c'était celle du copyleft. Un copyleft qui s'oppose à ce qu'on appelle le copyright. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'influence du copyleft dépasse le continent américain où M. Stallman a rédigé sa première licence libre et donc se pose des questions de réception de cette licence dans d'autres systèmes juridiques tels que le système français qui n'est pas comme le système de droit américain. On n'a pas de droit moral, par exemple, en droit américain. Donc il y a des difficultés sur la réception des licences, sur l'interprétation de ces termes. Je suis sûr que M. Stallman pourra justement nous éclairer. Il y a des problèmes pour les spécialistes que nous sommes sur la titularité des droits, sur la notion d'œuvre dérivée, l'œuvre logicielle dérivée. Ce qui est clair, c'est que le libre, ce qu'on appelle aujourd'hui le libre, ça n'est pas moins une réalité, c'est une réalité plutôt. Il y a une réelle économie des logiciels libres que les systèmes juridiques classiques ne peuvent aujourd'hui ignorer. C'est une réalité économique, c'est une réalité juridique. Le libre, c'est avant tout une licence, une modalité d'exploitation d'un logiciel qui repose sur l'idée d'un contrat. Je voudrais aussi citer un auteur que M. Stallman doit connaître, c'est Larry Lessig, qui a écrit une phrase très intéressante qui est « God is law » dans un de ses ouvrages, et qui a inspiré l'adoption des Creative Commons, donc une déclinaison de la licence libre sur des œuvres de l'esprit qui ne sont pas des logiciels. De tout cela, de tout ce phénomène qui a subi l'influence de M. Richard Stallman, j'en tire une conclusion, c'est qu'il inspire une adaptation du droit face à cette nouvelle économie du libre. Peut-être au niveau de la propriété intellectuelle, peut-il s'attendre à la création d'une nouvelle catégorie d'œuvres reconnues par le Code de propriété intellectuelle, la catégorie dite des œuvres libres. Monsieur Stallman, je vous laisse la parole. Excusez-moi si j'ai dû peut-être un peu écorcher ou avancer sur vos propos. C'est à vous de jouer. Welcome to you, Mr. Stallman.
Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que la voix est assez forte? Je peux expliquer les logiciels libres en trois mots. Liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire les choses que Sarkozy déteste. Liberté, parce que le logiciel libre respecte la liberté de l'utilisateur. Égalité, parce qu'avec le logiciel libre, personne n'a de pouvoir sur personne. Et fraternité, parce que nous encourageons la coopération entre les utilisateurs et dans la communauté. En anglais, je dois dire free software, mais le mot anglais free a deux significations. Il veut dire libre et gratuit. Mais dans le logiciel libre, il s'agit de la liberté et pas de la gratuité. Un programme libre n'est pas toujours gratuit. On peut faire des copies et les vendre. C'est légitime, c'est autorisé par toute la licence libre. Donc, il ne s'agit pas d'être gratuit. C'est un détail secondaire, celui du prix. Mais pour moi, les droits de l'homme sont les besoins. Je ne lutte pas pour avoir des choses gratuitement, mais je lutte pour ma liberté et pour votre liberté, parce que c'est la même chose. Avec le logiciel, il y a deux possibilités. Ou les utilisateurs ont le contrôle du programme, ou c'est le programme qui a le contrôle des utilisateurs. Le premier cas, c'est le logiciel libre. Si les utilisateurs ont les libertés nécessaires pour avoir effectivement le contrôle du programme, ils peuvent l'utiliser en liberté dans une communauté. Mais s'ils n'ont pas assez de liberté pour avoir effectivement le contrôle du programme, c'est le programme qui a le contrôle des utilisateurs. Mais quelqu'un, le développeur, a le contrôle du programme et à travers de lui, il dispose du pouvoir sur les utilisateurs. Donc le programme privateur, nous l'appelons privateur parce qu'il prive de la liberté à ses utilisateurs. Donc, il est un instrument de pouvoir injuste d'une partie sur beaucoup. Et c'est pourquoi nous disons que le logiciel doit toujours être libre. L'existence d'un programme privateur est une injustice. Et il faut lutter pour éliminer cette injustice, pour remplacer ce programme privateur par du libre. Mais il faut noter qu'avec ce système de pouvoir injuste, il y a aussi la colonisation numérique. Parce que c'est un système global de domination de beaucoup par quelques-uns. Et ces pouvoirs colonisateurs, en ce cas, sont des entreprises, pas des pays, mais c'est un gars. Ce système colonial, comme tout système colonial, pratique divider pour et dominer. un programme privateur divise les gens en interdisant le partage des copies entre les gens dans la communauté. Et le programme privateur rend impuissante les gens parce qu'ils n'ont pas le code source du programme. Par conséquent, ils ne peuvent pas le changer, ni même investiguer indépendamment ce que ce programme fait vraiment. Et on trouve souvent des fonctionnalités malveillantes dans les programmes privateurs, même les plus souvent utilisés du monde. Mais, quelles sont les libertés essentielles pour que les utilisateurs aient le contrôle du programme? Il y en a quatre. Et ces quatre libertés sont le critère pour qu'un programme soit libre. Liberté zéro est la liberté d'exécuter le programme, le faire tourner comme tu veux. La liberté numéro un est la liberté d'étudier le code source du programme et de le changer pour que le programme fasse ton informatique comme tu veux. La liberté 2 est celle de faire des copies exactes du programme et les distribuer aux autres quand tu veux. C'est-à-dire la liberté d'aider les autres. Et la liberté 3 est celle de faire des copies de tes versions modifiées et de les distribuer quand tu veux. C'est-à-dire liberté de contribuer à ta communauté. Si le programme offre toutes ces quatre libertés à des gens, en ce cas le programme est libre parce qu'un système social d'utilisation et de distribution est un système éthique qui respecte la liberté et la communauté. Mais si une des libertés manque ou est insuffisante, en ce cas le programme est privateur parce qu'il impose un système social pas éthique à ses utilisateurs. Cette distinction entre le logiciel libre et le logiciel privateur est donc pas une distinction technique, mais plutôt éthique, sociale et politique. Et par conséquent, plus importante que n'importe quelle distinction technique. Nous pouvons laisser les questions techniques aux services techniques, mais les questions des droits de l'homme sont importantes pour tout le monde. L'utilisation dans la société d'un programme libre est du développement. Parce que ce programme libre contient de la connaissance et cette connaissance est disponible à ses utilisateurs pour qu'ils puissent la comprendre et l'adapter aux autres utilisations. Il les rend indépendants. Mais l'utilisation de programmes privateurs dans la société n'est pas du développement parce qu'il est de la dépendance à quelqu'un, au propriétaire ou au développeur, et c'est un problème social. Il faut chercher les moyens d'éliminer le problème, c'est-à-dire d'éliminer l'utilisation de ce programme privateur. Écrire un programme libre et une contribution à la société. Combien? Ça dépend des détails. Mais écrire un programme privateur n'est pas une contribution parce que c'est un coût, c'est un essai de soumettre des autres. Et donc, il ne faut pas. Ce programme fonctionne en termes sociaux comme un piège, parce que il attire des utilisateurs à céder leur liberté en se faisant utilisateur de ce programme. Si le programme a des fonctionnalités attractives, elles sont la part du piège. C'est-à-dire, ils ne le rendent pas meilleur, mais plutôt plus dangereux et plus grand problème social. Donc, si tu as le choix d'écrire un programme privateur ou ne rien faire, il est meilleur de ne rien faire, parce que comme ça, tu ne fais pas de mal. Et le but donc, du mouvement de logiciels libres est que tous les programmes soient libres pour que tous leurs utilisateurs soient libres. Mais pourquoi sont ces quatre libertés les essentielles? Chacune a sa raison. La liberté d'aider les autres, de faire et distribuer les copies exactes du programme est essentielle pour des raisons fondamentales éthiques. Pour pouvoir vivre une vie éthique de bon membre de ta communauté. Si tu utilises un programme qui n'a pas la liberté de, tu es en danger de tomber dans un dilemme moral à n'importe quel moment. Quand ton bon ami te demande une copie du programme, qu'est-ce que tu lui diras? Tu devras choisir entre deux mots. Un mal est de lui donner une copie et rompre la licence du programme. L'autre mal est de lui nier une copie et suivre la licence du programme. Étant dans le dilemme, tu devras choisir le moindre mal, ce qui est de lui donner une copie et rompre la licence du programme. Mais pourquoi est-ce que ce mal est le moindre? Quand tu ne peux pas éviter de faire mal à l'un ou l'autre, il est moins mauvais de faire mal à celui qui le mérite parce qu'il a agi mal soi-même. Nous pouvons supposer que ton bon ami est un bon membre de ta communauté et normalement mérite ta coopération. Mais le développeur du programme privateur aura agi très mal parce qu'il aura essayé délibérément de rompre la solidarité sociale de ta communauté. Donc, si tu dois faire mal à l'un ou l'autre, fais-le au développeur. Mais être le moindre mal ne veut pas dire qu'il soit bon. Il n'est jamais bon de faire un accord et le rompre. Même dans le cas comme ce cas-ci, où l'accord est injuste et violent en soi, et le suivre est pire que le rompre, néanmoins le rompre n'arrive pas à être bon. Si tu lui donnes une copie, qu'est-ce qu'il aura? Il aura une copie pas autorisée d'un programme privateur, c'est-à-dire quelque chose assez vil, presque aussi vil qu'une copie autorisée du même programme. Parce que c'est un programme privateur et c'est toujours injuste. Donc, quand tu as bien compris ce dilemme, qu'est-ce que tu dois vraiment faire? Tu dois l'éviter. Tu dois ne pas tomber dans le dilemme. Mais comment? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous m'entendez toujours?
Oui, on vous entend.
Ici, il y avait quelques problèmes que je n'ai pas bien compris parce que le message est en italien, mais bon, je continue, il fonctionne. Donc, comment éviter les dilemmes? Je connais deux manières. Une est ne pas avoir d'amis. C'est la manière proposée implicitement par les développeurs du privateur. L'autre manière, ma manière, est de rejeter les programmes sans liberté code. Si quelqu'un m'offre un programme peut-être très attractif, très commode, mais sous la condition de ne pas le partager avec vous, je le rejette. Je lui dis que ma conscience ne permet pas d'accepter ces conditions et par conséquent, je ne vais pas utiliser son programme parce que c'est un programme injuste. Les conditions d'utilisation sont la justice. Et ce que vous devez faire aussi, et il faut aussi rejeter les expressions de propagande de l'ennemi, des expressions comme pirates. Vous avez, je suppose, après de lire Réunion, un grand problème de la piraterie qui vient de Somalie. Mais ça n'a rien à voir avec le logiciel. Il n'y a pas de piraterie dans le logiciel. Parce que quand les pirates attaquent les navires, ils le font avec des armes, pas avec des programmes. Donc, et non plus avec la musique. Les gens parlent de la piraterie musicale, mais quand les pirates attaquent les navires, ils ne le font pas jouant très mal et très fort la musique. Ce serait la piraterie musicale, mais il n'y en a pas. Évidemment, ce qu'ils font avec leur propagande, et d'essayer de nous confondre, de nous faire confondre, partager et aider les autres avec attaquer les navires. Mais au plan éthique, les deux sont très différents. Attaquer les navires est très mauvais, mais partager est bon. Donc il faut ne pas les appeler par le même mot. Donc, c'est la raison pour la liberté numéro 2, de faire et distribuer les copies exactes quand tu veux, essentiellement pour des raisons fondamentales éthiques. La liberté 0, la d'exister, d'utiliser le programme comme tu veux, est essentielle pour avoir le contrôle de ton informatique. Tu mérites ce contrôle, chaque utilisateur mérite ce contrôle. Mais comment voir? Il y a des programmes privateurs dont les licences restreignent même l'utilisation des copies autorisées. Par exemple, il y a un programme pour la gestion des sites web dont la licence interdit son utilisation pour publier n'importe quelle chose qui critique le développeur. Évidemment, on ne peut pas utiliser ce programme en liberté. Si tu ne veux pas même utiliser librement la copie qui est là pour ton utilisation, tu n'as pas le contrôle de l'informatique. Donc la liberté zéro est essentielle. Mais ne suffit pas, parce que c'est la liberté de faire ou ne pas faire ce que le code du programme permet déjà. C'est-à-dire que le développeur t'impose toujours ses décisions, non plus par la licence si tu as la liberté zéro, mais toujours par le code même du programme. Il décide ce que ce code fait et ce qu'il ne fait pas. Donc pour avoir le contrôle de ton informatique, tu as besoin aussi de la liberté numéro un. La liberté d'étudier le code source du programme et de le changer pour que le programme fasse son informatique comme tu veux, Ah, si tu décèdes, pas lui. Si tu n'as pas le code source du programme, tu ne peux pas même investiguer indépendamment ce que ce programme fait. Et souvent, les programmes privateurs cachent des fonctionnalités malveillantes, c'est-à-dire des fonctionnalités délibérées. Il ne s'agit pas des erreurs. Et ce n'est pas un des rares dangers de la vie. Il y en a beaucoup, mais normalement, ils n'ont pas lieu. Seulement, c'est très rare, par exemple, d'être dans un accident de voiture. C'est possible, mais pas souvent. Mais être la victime des fonctionnalités malveillantes est le cas normal chez le logiciel privateur. Par exemple, un logiciel privateur qui contient des fonctionnalités de surveillance de l'utilisateur, des fonctionnalités de restreindre l'utilisateur et des portes dérobées que tu connais peut-être de nom, s'appelle Microsoft Windows. On a découvert des fonctionnalités de surveillance dans Windows. Des fonctionnalités restreintes de l'utilisateur se voient. Telle fonctionnalité ne peut pas être cachée parce que le système refuse de faire les choses utiles que les utilisateurs voudraient faire. Ces fonctionnalités s'appellent les menottes numériques ou la gestion numérique de restriction, en anglais Digital Restrictions Management ou DRM. Il s'agit de restreindre ce que l'utilisateur peut faire avec les données dans sa propre machine à lui. Les portes dérobées ne se voient pas, mais nous avons découvert deux portes dérobées en Windows, au moins. Avec une, Microsoft a le pouvoir d'imposer à distance des changements de logiciel. N'importe changement, Microsoft est capable d'imposer. Je ne comprends pas pourquoi elle me demande ça, mais est-ce que ça continue?
Oui, on vous entend.
Ah, des fois, il me dit peut-être qu'il y a un autre appel, je ne comprends pas.
Mais
il paraît que je ne fais rien et ça va. Bon. Donc, avec les fonctionnalités malveillantes Windows et malware. Mais avec cette porte dérobée, c'est malware universel parce que n'importe quelle fonctionnalité malveillante qui n'est pas présente dans Windows aujourd'hui pourrait être imposée à distance demain. Mais Windows n'est pas unique. Le système du Macintosh a aussi le nom numérique et aussi les produits plus nouveaux d'Apple, le Spyphone et le iPad. Ils ont des fonctionnalités de surveillance découvertes il y a quelques mois. Ils ont des menottes numériques plus dures que les autres produits parce que Apple a pris le pouvoir même sur l'installation des applications. L'utilisateur n'est plus libre de choisir pour soi les applications à installer. Son choix est limité au programme approuvé d'Apple. Et aussi, ils ont une porte dérobée avec laquelle Apple a le pouvoir de supprimer à distance des applications déjà installées. Donc, complètement malware. Mais Flashware est aussi malware. Il a des fonctionnalités de surveillance et des menottes numériques. Mais Flash Player est gratuit, mais pas libre. Et cette gratuité ne change pas grand-chose. Elle veut dire que Adobe n'exige pas que les utilisateurs payent pour être abusés. Donc, qu'un programme soit gratuit est un petit détail sans importance éthique. Mais si le programme n'est pas libre, il n'est pas juste. Je pourrais donner plus des exemples davantage, mais il n'y a pas besoin. Ce sont entre les programmes privateurs les plus utilisés du monde et ils contiennent des fonctionnalités malveillantes. Mais il reste beaucoup de programmes privateurs dont nous ne savons pas s'ils comptent les fonctionnalités malveillantes ou pas. Et nous ne pouvons pas savoir, parce que nous n'avons pas de code source. Les utilisateurs de ces programmes n'ont pas de code source. Donc il faut les traiter de potentiel malware. C'est-à-dire, ils peuvent être malware, mais les utilisateurs ne peuvent pas voir. Mais il y a quelque chose que nous pouvons savoir, c'est-à-dire que les développeurs de ces programmes sont humains, donc ils font des erreurs. Le code de ces programmes contient des erreurs, et l'utilisateur d'un programme sans liberté numéro un est également impuissant face à une erreur accidentale que face à une fonctionnalité malveillante délibérée. Si tu utilises un programme sans liberté numéro un, tu es le prisonnier de ce programme. Nous, les développeurs de logiciels libres, sommes aussi humains. Nous faisons aussi des erreurs. Le code de nos programmes libres contient aussi des erreurs. C'est inévitable. Mais si tu trouves quelque erreur dans notre code ou n'importe quelle chose que tu n'aimes pas, tu es libre de le changer parce que nous ne t'avons pas fait nos prisonniers. Et donc, voici la grande différence. Et la liberté numéro un est aussi essentielle. Mais ne suffit pas, parce que c'est la liberté d'étudier personnellement et de changer personnellement le code source. Ce ne suffit pas, parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, des millions d'utilisateurs qui ne savent pas programmer. Et même nous, les programmeurs, sont occupés de faire plusieurs travaux. Et il y a tant de logiciels libres déjà dans le monde qu'aucun utilisateur n'est capable d'étudier le code source de tous les programmes qu'il utilise, ni d'écrire personnellement tous les changements qu'il peut désirer, parce que c'est trop de travail pour une seule personne. Comment donc avoir complètement le contrôle de notre informatique? Il faut le faire ensemble, en collaboration. Pour le faire, il faut la liberté numéro 3, c'est-à-dire la liberté de contribuer à ta communauté, la liberté de distribuer des copies des versions modifiées quand tu veux. Avec cette liberté, si quelques utilisateurs d'un programme libre ont une version modifiée, ils ont la liberté de la publier. Et puis, nous pouvons tous avoir des copies et l'utiliser sans avoir besoin d'écrire chacun le même changement. Il suffit, avec la liberté numéro 3, de l'écrire une fois pour tout le monde. Sans liberté 3, chacun pourrait écrire ce changement, mais quel gaspillage d'écrire le même changement des millions de fois. Et les utilisateurs qui ne savent pas programmer seraient complètement exclus. ce ne suffit pas. La liberté 3 est essentielle aussi. Ah, donc les quatre libertés sont essentielles. Et les quatre libertés ensemble nous fournissent la démocratie. Parce que le programme libre se développe démocratiquement sous le contrôle de ses utilisateurs. Chaque utilisateur est libre de participer comme il veut dans le développement du programme. Oui, il y a un autre appel, il y a souvent d'autres appels, je ne sais pas pourquoi, de quelqu'un d'autre, je suppose.
Vous mais prenez pas donc l'appel. Je vais.
Quoi?
Vous prenez pas l'appel, on vous écoute.
Ah, je n'entends pas. Mais de toute manière, je ne fais pas attention et il faut continuer. Donc, cette démocratie est en contraste avec la dictature du développeur d'un programme privateur. Pour lui, le programme privateur n'est qu'un instrument pour soumettre les gens. Donc la société a un choix à faire. D'un côté, la liberté individuelle, la solidarité sociale et la démocratie. De l'autre côté, la dictature du développeur sur les utilisateurs. Le programme privateur, en effet, est un joug. Donc, la société doit choisir le logiciel libre et rejeter le logiciel privateur. Et donc, le grand but du mouvement de logiciel libre est la libération du cyberespace et de tous ses habitants. Nous t'invitons à t'échapper du logiciel privateur et venir à vivre avec nous dans le monde libre que nous avons construit. J'ai lancé le mouvement de logiciel libre à l'année 83 parce que je voulais qu'il soit possible d'utiliser un ordinateur en liberté. Il était impossible parce que l'ordinateur ne peut rien faire sans système d'exploitation. Et tous les systèmes d'exploitation pour les ordinateurs modernes de l'époque étaient déjà prêteurs. Très peu étaient d'accord avec moi, donc je ne pensais pas pouvoir réussir ce changement par un mouvement classique politique, par des manifestations et pas des lettres, parce que nous aurions été trop peu. Et je ne savais pas le faire. Je n'étais pas organisateur politique. J'étais un développeur des systèmes d'exploitation. Mais enfin, j'ai reconnu que j'avais aussi un autre chemin pour faire ce changement. Il suffisait d'écrire un système d'exploitation nouveau. Et en tant que son auteur, je pourrais légalement le rendre libre. Et puis, le monde pourrait utiliser leurs ordinateurs en liberté avec mon système. J'ai décidé donc d'écrire un système d'exploitation complètement de logiciel libre. J'ai décidé de recruter des autres à participer dans le développement pour le terminer plus vite. J'ai décidé de suivre la conception basique d'Unix. Unix était un système privateur, mais avec des avantages techniques. En suivant la conception fondamentale, j'avais l'opportunité d'avoir les mêmes avantages techniques, y compris d'être portable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être capable de s'adapter au nouveau modèle d'ordinateur. Et puis, j'ai décidé de le faire compatible avec Unix, c'est-à-dire avoir les mêmes commandes pour que les utilisateurs d'Unix puissent migrer facilement à mon système parce qu'ils n'ont besoin d'apprendre rien. Ils peuvent utiliser les mêmes commandes qu'ils savaient déjà. Et autre résultat de cette compatibilité était que les programmes déjà écrits pour Unix fonctionnaient aussi sur mon système. Et puis, je l'ai donné comme nom GNU/Lab. Ce système s'appelle GNU, c'est-à-dire GNU. Et c'est un acronyme récursif. GNU veut dire GNU, GNU's not Unix. GNU's not Unix, GNU. C'est-à-dire que la G veut dire GNU. En français, ça peut se dire GNU n'est pas Unix. Mais comme mot, GNU est le nom d'un animal qui habite en Afrique. Et il y en a beaucoup, toujours. Et c'est parce que c'est un mot avec une autre signification que cet acronyme fait un jeu de mots. Mais il faut... Mais pourquoi ce mot? Parce que c'est le mot le plus chargé d'humour de la langue anglaise. Parce que selon le dictionnaire, la G est muette et le mot... Et le mot se prononce new, comme nouveau. Donc, chaque fois que quelqu'un veut écrire le mot new, c'est-à-dire nouveau, il peut l'appeler GNU, c'est un jeu de mots. Peut-être pas très bon, mais il y en a beaucoup. Donc, donner la possibilité d'utiliser ce mot pour des raisons spécifiques comme nom de projet de programmation, je ne pouvais pas résister. Mais quand c'est le nom de notre système, il faut ne pas suivre le dictionnaire. Parce que surtout en anglais, si tu dis « new system », tu peux confondre les utilisateurs. Notre système n'est plus nouveau. J'ai lancé le développement en janvier 84. Et c'est-à-dire il y a presque 28 ans, et nous utilisons ce système depuis il y a 19 ans. Le système n'est plus nouveau, mais il est toujours GNU. Il y a une autre erreur de prononciation qu'il faut éviter soigneusement, qui sonne comme Linux. Des millions d'utilisateurs du système GNU ne reconnaissent pas qu'ils sont des utilisateurs de GNU parce qu'ils pensent que le système soit Linux et l'appellent Linux et ils pensent que M. Torvalds avait commencé le développement du système à l'année 91. Ce n'est pas vrai. Le système est plutôt GNU, mais contient aussi un programme qui est Linux. À l'année 82, nous avions presque tout le système GNU, mais un composant essentiel manquait toujours, c'est le noyau. Le programme qui fournit les ressources de la machine, d'autres programmes qui tournent. Et à l'année 92, M. Torvalds, qui avait un noyau privateur Linux, a décidé de le libérer. Et il l'a publié sous la licence publique générale de GNU, au GPL de GNU. Et comme ça, il l'a rendu libre. Et la combinaison du système presque complet GNU et le noyau Linux faisait un système complet et complètement de logiciels libres, qui était plutôt GNU, mais contient aussi Linux. Donc, le système GNU et Linux est un nom approprié. Et prêt de l'appeler ainsi pour reconnaître notre travail. Je crois que nous mérissons la reconnaissance égale. Et avec GNU et Linux, je vais nous le donner. Merci. Mais pourquoi est-ce que c'est important? La question de la reconnaissance du travail de quelqu'un n'est pas la question éthique la plus importante de la vie. Parce qu'il y a quelque chose beaucoup plus important dans l'enjeu du nom du système. Ta liberté est dans l'enjeu. Pas directement, parce que directement le nom ne change pas la chose. Mais indirectement, il peut avoir de l'influence. Les mots que tu choisis détermine le message que tu transmets aux autres, qui a de l'influence sur leurs pensées et leurs actes. Depuis il y a 28 ans, le nom de GNU s'associe avec nos idées de liberté et communauté, mais le nom de Linux non. Le nom de Linux s'associe avec des autres idées, avec d'autres idées, les idées de M. Torvalds. Et quelles sont ces idées? Il n'était jamais d'accord avec le mouvement de logiciels libres. Il ne croit pas que tu mérites de la liberté dans mon utilisation de programme. Il ne croit pas qu'il mérite la liberté. Il dit qu'il est content d'utiliser des programmes privateurs, qu'il juge selon la commodité et la fiabilité d'un programme. Et il a le droit de ses opinions, mais nous, les développeurs principaux de ce système, ne sommes pas d'accord avec ses idées. Et nous désirons que nos idées soient reconnues. Et si tu appelles le système GNU et Linux, c'est un moyen de reconnaître nos idées et notre travail. Parce que la liberté est souvent menacée. Et pour la garder, il faut la protéger. Mais l'informatique est un champ nouveau de la vie. Dans les autres champs de la vie, le débat sur les droits de l'homme a duré des décennies ou des siècles. Suffisant pour arriver à des conclusions et les diffuser mondialement. Mais dans l'informatique, un champ très nouveau, nous n'avons pas eu le temps pour un débat, mais en vérité, il n'y a jamais ce débat, parce que presque tous les utilisateurs de l'informatique ont commencé avec du logiciel privateur, rodé d'autres utilisateurs du logiciel privateur sans connaître autre possibilité. Donc, ils ont supposé qu'un programme privateur soit légitime. Et en effet, ils ont laissé les développeurs privateurs dicter la réponse à la question « Quel droit de l'homme est-ce que tu mérites dans l'utilisation d'un programme ?» Ils ont dicté « Aucun ». Ils ont dicté qu'ils ont le pouvoir d'imposer n'importe quelle condition, de t'imposer n'importe quelle condition. Qui, donc, essaie de lancer ce débat? Nous, dans le mouvement de logiciels libres, pensons que nous avons identifié 4 droits de l'homme essentiels pour tout utilisateur d'un programme. Ils sont les 4 libertés qui font le critère d'un programme libre. Tu mérites cette liberté, tout utilisateur les mérite. Mais quand nous essayons de faire arriver nos idées au grand public ou même aux utilisateurs de notre système GNU, nous trouvons 2 obstacles. L'un est que les utilisateurs de GNU ne savent pas que le système est GNU. Ils pensent que le système soit Linux. Et donc, quand ils voient les articles que nous publions qui expliquent la philosophie de GNU, ils se disent « Ah, ce vient des extrémistes de GNU. Pourquoi le dire ? Moi, je suis utilisateur de Linux. J'admire les idées pragmatiques de M. Torvalds. Je ne le lis pas. » C'est ironique, parce que quand ils se disent « Je suis utilisateur de Linux », il s'agit vraiment du système GNU, mais ils ne le savent pas. Donc, si tu dis GNU et Linux, les autres sauront qu'il s'agit vraiment du système GNU. Et quand ils voient le même article, ils se diront « Ah, voici un article des développeurs de GNU et moi, je suis utilisateur de GNU avec Linux. Je dois le lire et considérer leur philosophie pour qui a motivé le développement du système que j'utilise. Et nous aurions l'opportunité d'essayer de les convaincre. Mais aujourd'hui, souvent, les utilisateurs ne connaissent même l'expression logiciel libre ou free software en anglais, parce que beaucoup de discours utilisent l'autre expression open source pour.
Tout va bien.
C'est curieux. Il y avait un autre appel essayé et beaucoup de bruit d'une foule m'est arrivé. Et je me suis demandé est-ce que ces voix viennent de vous, mais je crois que non, vous ne pouvez pas.
Non, vous m'écoutez. Vous avez prévu des gogo dancers, mais c'est pas elle.
Je n'entends pas.
It's all right.
Ok, il faut me parler lentement. Je suis dur d'oreille. Et pour que j'entende, il faut me parler toujours lentement. Mais bon, je continue. Dans les années 90, dans la communauté de logiciels libres, il y avait 2 camps politiques. Il y avait le camp du mouvement logiciel libre. Nous valorisions comme aujourd'hui les droits de l'homme. Et il y avait aussi l'autre camp de ceux qui appréciaient les mêmes programmes, qui participaient dans le développement ou la diffusion de ces programmes, mais qui ne valorisaient pas les droits de l'homme. Leur valeur était rentabilité, efficacité, fiabilité. C'est-à-dire pas des valeurs éthiques, mais plutôt des valeurs pratiques et de court terme et égoïstes. Et en 99, pendant les années 90, il y avait un débat entre les deux camps. Mais en 99, l'autre camp a inventé une nouvelle expression open source pour, avec l'intention de faire référence à la même ensemble de programmes, mais avec d'autres philosophies. En fait, ils ont adopté un autre critère et avec un autre groupe comme interprète, ils n'ont pas mis la ligne au même lieu. Pour nous, c'est cette ligne et pour eux, c'est cette ligne. Donc il y a une différence. Il y a des programmes qui sont open source, qui ne sont pas libres. Donc si quelqu'un dit, et si tu demandes est-ce que ce programme est libre, et quelqu'un répond, il est open source, tu n'as pas de réponse. Probablement il est libre, mais il y a une possibilité qu'il ne soit pas libre. Il faut continuer, il faut continuer de demander, oui, bon, c'est open source, mais est-ce que c'est libre? Ce ne sont pas les mêmes choses. Il y a une différence. Mais la grande différence n'est pas au niveau pratique, mais plutôt au niveau philosophique, dans les valeurs. Parce que pour nous, les valeurs sont les droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité. Et pour eux, les valeurs qu'ils citent sont les valeurs pratiques de commodité. C'est pour ça que je n'appuie pas le camp open source. Je ne suis pas d'accord avec leur philosophie. S'ils veulent participer dans le développement de mon programme, pourquoi pas? Nous ne rejetons personne. Mais suivre leur philosophie, c'est autre chose. Dans l'introduction, il y avait aussi la question, mais il faut vous montrer les conséquences de cette différence de philosophie, parce que ce n'est pas purement, ce n'est pas une question théorique. Cette différence entraîne des conséquences pratiques. Par exemple, aujourd'hui, il y a plus de 1000 variantes du système GNU et Linux. Il s'appelle usuellement distribution. Il y a plus de 1000 distributions GNU et Linux. Et presque toutes contiennent des programmes privateurs. Et il y a quelques peu qui ont la politique d'être complètement de logiciels libres. Donc maintenant, si tu décides d'installer le système GNU et Linux, GNU et Linux pour être libre, et si tu choisis une distribution très nue, c'est presque assuré que tu installes des programmes privateurs sans le savoir.
Buonasera. Buonasera.
Non, c'est pas chez nous, hein. Vous pouvez continuer.
Oui, c'est un autre appel. Il est difficile parce que cette fois, quelqu'un a dit Buenasera, Buenasera, et je ne peux pas concentrer pendant qu'elle parlait. J'ai beaucoup de sommeil, mais je continue. Il y a quelques peu de distributions qui se développent selon la philosophie de Deutsche Libre qui rejette par principe les programmes privateurs, mais les autres n'ont pas notre philosophie. Ils sont dans le corps d'open source. Ils jugent selon la commodité. Si un programme privateur serait commode, ils mettent le programme dans la distribution. Si tu veux trouver la liste des distributions libres connues, elle se trouve dans la page gnu.org/distros. Et aussi, actuellement, Linux, le noyau, n'est plus libre. Dans le code source de Linux, dans la version développée par M. Torvalds, tu trouverais des fichiers supposément de code source qui contiennent des programmes privateurs déguisés en code source. Ils ont la forme des grandes listes de numéros. Jusqu'à 300 000 numéros dans une liste. Et chaque liste est vraiment un programme exécutable dont le code source n'est pas disponible. Et souvent, en beaucoup de cas, ces programmes portent des licences explicites, pas libres. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Torvalds est dans le camp open source. Il ne croit pas que l'utilisateur mérite de la liberté. Donc, il a décidé d'installer ses portions privatrices dans les supposés fichiers de code source Linux. Par conséquent, pour avoir des distributions complètement libres de GNU et Linux, il faut supprimer les portions privatrices dans Linux. Nous devons utiliser une version modifiée de Linux. C'est-à-dire, quand notre liberté dépend de quelqu'un qui ne valorise pas la liberté, elle est précaire. Elle peut facilement se perdre. Si lui trouve que notre comportement est plus commode pour lui, il peut changer sans le conserver grand-chose. Et c'est ce qu'il a fait. Pour quelque temps, M. Valls faisait le développement de Linux comme un programme libre. Et puis, mais pas par principe, mais pour ses propres raisons. Et puis, il a décidé d'introduire les portions privatrices pour ses propres raisons. Donc, dans la pratique, il n'y a rien de plus important que notre philosophie, que nos valeurs. Pour établir une liberté durable, il ne suffit pas de faire de la liberté et en donner quelque peu à chacun. Parce que celui qui a de la liberté dans sa main, mais qui ne valorise pas sa liberté, a beaucoup d'opportunités de la perdre. Pour ne pas la perdre, il doit savoir pourquoi serre la main. Donc, il n'y a rien qui a plus d'influence sur notre futur que nos valeurs. Nous avons parlé des licences de logiciels libres. Je veux dire un peu sur les licences. Pourquoi est-ce qu'un programme libre porte une licence? C'est pour le rendre libre. Les programmes privateurs, d'habitude, portent des licences pour restreindre toujours plus d'utilisateurs. Pour les développeurs de privateurs, souvent, le droit d'auteur ne suffit pas comme restreint d'utilisateurs. Ils veulent les restreindre encore plus. Donc, ils font des contrats. Les licences des programmes privateurs sont en cadre des contrats que l'utilisateur est supposé d'avoir signé. Et comme ça, ces licences peuvent restreindre même plus. Mais pour nous, c'est le contraire. Une licence logicielle libre est présente pour autoriser les libertés que l'utilisateur doit avoir. Parce que selon la loi actuelle du droit d'auteur, tout programme, pour être une œuvre écrite, porte automatiquement un droit d'auteur. Et la loi du droit d'auteur, par défaut, interdit les quatre libertés, interdit changer le programme, copier le programme, diffuser des copies. Et dans beaucoup de pays, cette loi interdit même de faire tourner.
Monsieur Stallman.
Quoi?
Monsieur Stallman, compte tenu du temps qui passe, ce que je vous propose, c'est justement, j'ai une question à vous poser, et peut-être faire un petit échange sur tout ce que vous avez dit, qui est très enrichissant.
J'ai presque terminé.
All right.
J'ai presque terminé. Et je sais que ce sujet est important parce que vous l'avez mentionné au commencement.
Tout à fait.
Donc, je peux expliquer un peu sur les licences de logiciels libres.
Je vous propose de terminer votre propos sur les licences de logiciels libres. Et juste après, on enchaîne avec quelques questions.
D'accord.
Avec le public.
C'est ce que j'allais faire. Donc, comment est-ce que ce programme peut être libre? Seulement par une déclaration formelle par les détenteurs du droit d'auteur sur le programme, autorisant les quatre libertés. Cette déclaration s'appelle une licence de logiciel libre. Il y a donc plusieurs manières d'en écrire. Il y a donc beaucoup de licences libres avec des différences de détails. Ce qu'elles ont en commun est d'autoriser les quatre libertés. Mais il y a plusieurs manières de le faire. Et quelles sont les différences? La différence principale entre les licences libres est d'avoir ou ne pas avoir le gauche d'auteur. En anglais, copyleft. En français, le gauche d'auteur. Parce que c'est le même jeu de mots. Et rater l'opportunité de traduire un jeu de mots est absurde. Donc, pas copyleft en français. Il s'appelle le gauche d'auteur. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? C'est une technique légale que j'ai inventée. Une manière d'utiliser le droit d'auteur. Je voulais éviter un problème que j'avais vu chez d'autres programmes libres avant le projet GNU. Le problème était que A a publié un programme libre et B a repris le même programme et a publié une version modifiée comme un programme privateur. Et comme ça, les utilisateurs de la version de B n'avait pas les quatre libertés. C'est-à-dire, la licence que A avait choisie permettait could be supprimer les libertés. Donc, étant vu que mon but était la libération des utilisateurs, j'avais besoin d'éviter ce danger. Mais comment? J'ai inventé la technique de mettre dans les conditions de la licence même, basées sur le droit d'auteur, des conditions pour exiger que B respecte la liberté des autres. Spécifiquement, le gauche d'auteur dit que vous avez la liberté de redistribuer les copies exactes et la liberté de distribuer les versions modifiées. Mais il y a des conditions. Par exemple, les copies que vous distribuez doivent porter la même licence, pas de changement de licence autorisé. Vous devez offrir le code source à vos utilisateurs. Et vous devez, avec chaque copie, fournir une copie de la licence originelle pour que les utilisateurs connaissent leurs droits. Et j'ai implémenté cette méthode, cette technique, à l'année 85, quand j'avais pour la première fois un programme, une composante du groupe prêt à être utilisé, que je voulais distribuer, j'avais besoin d'écrire sa licence et j'ai développé cette technique. Mais enfin, en 89, j'ai généralisé la technique, j'ai écrit la licence publique générale de GNU, version 1, qui était utilisable dans n'importe quel programme. Je l'ai écrit de manière à ne pas mentionner le nom du programme. Comme ça, n'importe qui pouvait utiliser ma licence pour son programme, facilement, sans changer mot dans la licence. Et plus tard, en 91, j'ai écrit la version 2 et en 2007, j'ai écrit la version 3. Toujours les mêmes buts, mais avec des améliorations. Et la version 3, j'ai développé avec l'aide d'une équipe d'avocats, une équipe internationale pour assurer le bon fonctionnement de cette licence dans beaucoup de pays. Nous n'avions pas des avocats de chaque pays, mais français, oui. Donc, maintenant, des questions.
Merci, Monsieur Stallman. Grâce à vous, vous venez de bouleverser mon cours de propriété intellectuelle pour l'année 2011-2012.
Mais je dois expliquer pourquoi il faut ne pas utiliser cette expression.
Very shortly.
C'est une confusion de beaucoup de lois qui n'ont rien en commun. Même la loi du droit d'auteur et la loi des brevets n'ont rien en commun. En chaque fois, elles sont différentes. Et les conditions sont différentes, le fonctionnement des deux systèmes sont différents et les conséquences pratiques sont différentes.
Donc,
il faut considérer donc chaque loi comme sa propre sujet et ne jamais mélanger ces deux sujets.
Justement, donc on va procéder à un échange. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient réagir. Donc votre propos est assez... je vais parler lentement, comme vous me l'avez demandé. Votre propos est très intéressant, puisque au-delà de la seule mécanique des logiciels libres, donc vous exprimez un combat face à la domination des logiciels propriétaires, des logiciels privateurs, définis comme étant ceux qui privent de liberté. Bon, j'aurais beaucoup de questions. J'aurais juste une remarque pour commencer peut-être, et après on passera la parole au public. S'agissant de l'accès au code source, comme vous le savez, en droit français, on a quand même ce qu'on appelle une exception d'interopérabilité qui permet, même s'agissant d'un logiciel propriétaire, qui permet à son utilisateur de pouvoir rendre interopérable un logiciel, même privé, avec sa machine. Par contre, il ne peut pas redistribuer le fruit de ses trouvailles. Mais cette exception d'interopérabilité dans le droit français a quand même le mérite d'exister. Qu'en pensez-vous ? Et une deuxième réaction, c'est que finalement, si je vous écoute, il ne faut surtout plus déposer de brevet.
Je n'ai pas bien entendu toutes ces phrases. Je connais cette exception au droit directive européenne sur le droit d'auteur. Il s'agit d'une autorisation de faire la génie inverse. Je ne sais pas le dire bien en français.
Des compilations.
Oui. Et c'est bon d'avoir cette exception. C'est utile. Et ça peut être utile surtout dans la tâche de faire des remplacements libres aux programmes privateurs pour gérer les périphériques, par exemple. Et c'est bon, mais ça rend légal le travail, mais ce ne le rend pas facile.
La deuxième remarque, c'était sur les brevets. Puis je vais demander en même temps au public s'il y a des personnes qui veulent se manifester pour poser une question. On a déjà un candidat. Ma deuxième remarque, c'était, si je vous écoute, il ne faut plus rien breveter. If I listen to you, we should no longer patent anything.
Je ne vais pas si loin. Je connais pas champ où les brevets font beaucoup de mal. Dans le logiciel, dans la médecine et dans l'agriculture. Mais les trois problèmes sont complètement différents, même dans leur forme. Parce que dans le logiciel, les brevets mettent en danger les développeurs et leurs utilisateurs, leurs clients. Parce que pour développer un programme, un grand programme, il faut implémenter ensemble des milliers d'idées. Et qu'est-ce que c'est qu'un brevet? C'est un monopole imposé sur l'utilisation une idée. Dans un pays où il y a des brevets informatiques, n'importe quelle idée informatique peut être brevetée, et comme ça, le développeur d'un programme peut avoir un procès pour les idées qu'il a inventées dans le code qu'il a écrit lui. Et c'est un danger absurde, et les résultats peuvent être vus dans les grands procès entre les entreprises dans le champ, dans les parasites brevets qui ne font qu'attaquer les utilisateurs, les fabricants de vrais produits. Et c'est donc un danger pour n'importe qui développe du logiciel et pour leurs utilisateurs commerciaux.
Je vais vous passer la parole à quelqu'un.
Bonjour Monsieur Stallman, Arnaud Leprévot de Mandriva.
Je n'entends pas les sons.
Ok, c'est mieux là?
C'est un peu meilleur.
Ok, on va essayer comme ça.
Il faut prononcer très clairement chaque consonne.
D'accord. Je parlerai d'abord en français, puis après en anglais. Et j'espère que les deux feront du code correcteur d'erreur. I have a question about, in fact, what you said about the Linux kernel. In fact, if there are firmware code within the Linux kernel, it is because of the proprietary on the proprietary state of the hardware. So it means that it is just an interface. I translate for my friends here. Donc, si nous avons des codes de firmware à l'intérieur du kernel Linux, c'est parce que le hardware est propriétaire. Donc, la question est de savoir si le firmware fait partie du hardware, on va dire, ou s'il fait partie du logiciel. Donc, c'est un problème d'interface entre deux mondes, un monde de logiciel libre et un monde de propriété intellectuelle lié au matériel.
Non, il n'y a pas de propriété intellectuelle.
Un monde de brevets, on va dire. On va dire ça comme ça. Même si ça n'est pas.
Je n'ai pas entendu la dernière phrase, mais je réponds. La distinction de libre et privateur ne s'applique pas aux objets physiques. Il s'applique aux œuvres des programmes. Mais l'utilisation importante pour les objets physiques, comme par exemple le numérique, est entre. Et si le mode d'emploi est connu ou secret. Et le problème, le besoin des programmes préparateurs pour gérer les périphériques existe. Quand le mot d'emploi du périphérique est secret. Et en ce cas, le système ne peut pas gérer le périphérique sans le programme privateur. Donc le développeur a un choix. C'est un choix entre l'éthique et le commode. Il peut mettre un programme privateur et avoir un système capable de gérer ce périphérique-là, mais un système pas complètement libre et pas complètement éthique. Ou il peut rejeter ce code privateur et avoir un système éthique et dire aux utilisateurs pour utiliser ce système, il faut ne pas avoir ce périphérique et pour le remplacer, c'est ce que nous faisons.
D'accord. Et j'avais une autre question concernant les contributions, par exemple, à GCC. GCC est un programme.
Contributions de quoi ?
Les contributions de code. Les contributions de code à GCC. GCC est un programme qui est sous licence, dont le copyright appartient à la FSF. Quand on veut contribuer à GCC, on est obligé de transférer son copyright à la FSF. Je voudrais savoir pourquoi c'est comme ça.
Oui et non. Le programme est libre, donc vous avez les libertés 1 et 3. Vous pouvez faire une version modifiée et en distribuer les copies. Et les conditions sont de respecter la liberté des autres. Il n'y a pas d'obligation de nous donner le droit d'auteur. Mais si vous voulez que nous acceptions vos changements pour les mettre dans notre version, pour faire ça, nous exigeons le transfert du droit d'auteur.
Pourquoi ?
Pour pouvoir appliquer plus efficacement les conditions du ghost d'auteur. C'est notre avocat qui est nos avocats, parce que pas seulement un, sont les années, nos avocats nous ont dit que pour avoir la meilleure possibilité de gagner un procès, il faut maintenir très simple l'état du vendeur du programme.
Pour le coup, ça me paraît presque dangereux. Imaginons un instant...
Je n'entends pas. Tu les quoi?
Imaginons un instant qu'il y ait un problème légal avec la FSF, que, je ne sais pas, l'association soit dissoute.
Je n'ai pas entendu l'imaginaire.
Sorry, let's imagine that there's a problem, a legal problem with FSF. For example, FSF is disappearing for one reason or another, I don't know. What will happen with the copyrights that are owned by SFS?
Le droit de la libre, rien ne peut changer. Si vous avez une copie d'une distribution de GCC, vous l'avez sous licence et la licence autorise les quatre libertés. Ce que l'FSF est chargé de faire et d'appliquer la licence. Il y a des entreprises qui enfreignent la licence, qui diffusent des copies de GCC comme le logiciel privateur sans respecter la liberté des autres. Donc notre devoir est de poursuivre et poursuivre de, s'il y a besoin, enfin, de leur demander, de leur faire des procès. Et une fois, il nous fallait faire un procès pour qu'une entreprise arrêter de violer la licence et commencer à respecter la liberté des autres. Dans les autres programmes, suppose qu'il s'agit d'un autre programme libre qui n'a pas de telle politique. Il y a beaucoup de contributeurs et chacun a le droit d'auteur sur ses contributions. En ce cas, théoriquement, chacun peut faire un procès sur sa portion du code, mais les avocats me disent que comme ça il y a un risque de rater tout. Ils me conseillent de maintenir simple l'état du droit d'auteur, c'est-à-dire avec très peu de détenteurs du droit d'auteur sur le code. Et la manière de le faire est de proposer aux auteurs de transférer le droit d'auteur à une seule organisation organisée pour défendre le logiciel.
Monsieur Stallman, je vais rebondir sur ce que vous dites. Donc, puisque vous avez été obligé de faire des poursuites judiciaires pour ceux qui n'ont pas respecté vos libertés dans le cadre d'une licence, le fait de ne pas avoir respecté ces libertés, c'est ce qu'on appelle un infringement. Et en d'autres termes, un infringement a des droits préexistants, which means counterfeiting. Sauf erreur de ma
part.
Counterfeiting. Contrefaçon.
En anglais, je ne dis pas counterfeiting. C'est contrefaçon, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Mais en anglais, counterfeiting est autre chose. Il s'agit de violer la loi du droit d'auteur.
Oui, mais alors, dans votre cas, en tout cas dans ma compréhension de ce que vous avez appelé le copyleft, dans ma compréhension, in my understanding, first there is a rights, and when you have this right, you use the copyrights to enforce a way to use the software. Donc au départ, il y a le copyright, donc le droit d'auteur, et on utilise, on se sert de ces droits préexistants pour pouvoir aménager les droits de l'utilisateur par le biais d'une licence, through license. En d'autres termes,
c'est bien entendu, c'est correct.
Donc en d'autres termes, moi ce que je comprends de votre mouvement et sur lequel effectivement on va se rejoindre, c'est qu'au départ il s'agit d'une reconnaissance de droit d'auteur. Quand quelqu'un crée un logiciel, when somebody creates a software.
Non.
Just let me finish.
Disons le droit d'auteur parce qu'il existe, mais ce ne va pas dire que nous soyons en faveur de toutes les choses qu'on fait avec ou en nom du droit d'auteur. Nous le critiquons très fort, mais étant vu que cette loi existe, nous l'utilisons comme une arme. Mais le but de notre mouvement ne comprend pas le renforcement du droit d'auteur. Le but de notre mouvement est que les programmes soient libres.
Alors, lorsque les programmes sont libres, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a finalement pas de transfert de droit au profit des utilisateurs?
J'entends pas bien.
There is no assignment of rights in the benefit of users.
I can't understand that in English either. There is no what?
Right assignment. Transfert de droit.
Oh, je comprends pas. Cette fois j'ai entendu et je comprends pas.
Lorsque vous êtes investi d'un droit d'auteur, quand vous avez un copyright, dans la logique libre, finalement le créateur d'un logiciel primaire reste finalement le seul détenteur des droits d'auteur. Il ne transfère pas ses droits à l'utilisateur. Il lui donne simplement des modalités d'utilisation très larges.
Oui, c'est vrai. Donc, les développeurs entre eux gardent le droit d'auteur. Avec l'FSF, avec quelques programmes, les autres contributeurs transfèrent leur droit d'auteur à l'FSF. Mais dans d'autres cas, même avec nous, chaque contributeur garde sa propre droit d'auteur, il n'y a pas de transfert. Mais de toute manière, entre les développeurs, il y en a ou un ou tous qui gardent le droit d'auteur et publient le programme avec une licence libre basée sur le droit d'auteur. Et c'est comme ça avec la GPL de GNU, mais aussi avec presque toutes les licences libres. J'ai vu une licence libre qui a essayé d'utiliser autre loi, parce que cette licence essayait d'être un contrat. Mais je trouve que c'est incommode pour les utilisateurs parce qu'il l'oblige de signer, il oblige que chaque utilisateur signe. Et c'est incommode. Comment distribuer des disques qui peuvent signer. Donc c'est incommode et je ne recommande pas de le faire. Mais en cas d'urgence ou en cas de nécessité dans le futur, c'est aussi possible. Mais normalement, les licences libres sont basées sur le droit d'auteur.
D'accord. Donc là, on est d'accord sur un point et je vais même aller dans votre sens après vous avoir...
Je n'entends pas.
On est d'accord sur ce point. We agree on this point.
Mais
je vais aller dans votre sens. I'm going in your way. Finalement, avec le droit du logiciel qu'on connaît aujourd'hui en France, with the author's rights, the software law that which has been implemented in France recently since 1984, it's basically American law.
the French soft
basically a what?
American law.
Basically a...
It's basically like an American law.
I can't hear the word you are saying. I'm sorry.
It's like U.S. law. U.S.
Yes, le droit d'auteur est semblable plus ou moins dans tous les pays.
Mais je voulais parler, du droit des logiciels. C'est-à-dire le droit d'auteur des logiciels en France a été calqué sur des demandes américaines. Et c'est vrai qu'elle prive l'utilisateur d'un certain nombre d'usages, et c'est pour ça que je suis d'accord avec votre discours sur les libertés.
Je n'ai pas entendu ces phrases, c'est dommage, mais votre voix est très difficile pour moi.
I'll try in English.
La situation de la ligne, il est très difficile, il ne fonctionne pas.
I'll try in English. What I'm saying is the software French law actually restricts or prevents the users from doing copies of the software when it is implemented on its computer, on his computer. So, as a user point of view, it's very difficult. So, if we take this statutes which are inspired from U.S. law. Those statutes restrict the users' rights, and they have been imposed by the U.S. in 1984. Considering this, I think this is my point of view that your approach is interesting, in the sense that it offers to users a new way of using his computer with the rights of reproducing the computer and without being sued for counterfeiting, because in the French US law we can only make one copy of the software for safe purposes.
Je suis d'accord. Mais je dirais beaucoup plus que ça, parce qu'il ne s'agit pas que de pouvoir faire des copies pour nous-mêmes, mais aussi de partager avec les autres, et aussi d'avoir le contrôle du développement de ce programme. Les utilisateurs doivent avoir le contrôle du programme, et pas le contraire. Donc, notre philosophie ne s'agit pas directement du droit d'auteur. Nous utilisons le droit d'auteur, mais la question principale, c'est que les utilisateurs doivent être libres, le logiciel doit être libre, et cette position a des conséquences sur le droit d'auteur et sur nos sujets aussi.
Bonsoir, Monsieur Stallman, vous m'entendez? Oui, Didier Waraud, Université de La Réunion. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites, et je serai d'accord avec tout ce que vous direz. Je veux juste avoir votre point de vue sur...
Ah, je n'entends pas maintenant.
Je n'entends pas maintenant. Est-ce que vous m'entendez comme ça?
Il faut parler un peu plus lentement.
Est-ce que vous m'entendez?
Maintenant, plus ou moins.
D'accord. Je voudrais avoir votre point de vue sur les technologies dites cloud computing, et plus précisément, quelles sont les alternatives ou les solutions que prône la FSF pour concernant le cloud computing.
Je n'utilise pas cette expression parce qu'elle est trop large. Il y a beaucoup de manières d'utiliser le réseau. Et l'expression cloud computing généralise sur beaucoup de choses qui ne sont pas semblables. Donc cette expression n'est pas utile, ne sert pas, et je recommande de ne pas l'utiliser. Et parce que vous avez utilisé cette expression, je ne comprends pas vraiment de quoi il s'agit. Si vous pouvez spécifier concrètement de quoi il s'agit, je pourrais répondre.
Je veux parler des solutions software as a service, c'est-à-dire des solutions.
C'est autre chose. Oui, le logiciel comme service est un cas plus spécifique parce que cloud computing comprend d'autres choses aussi. Donc, oui, software, logiciel comme service est assez spécifique pour être le sujet d'une réponse. C'est mauvais, c'est toujours mauvais. Parce que si tu laisses que le serveur d'un autre fasse ton informatique, tu perds le contrôle de ton informatique. C'est comme utiliser un programme privateur. Donc, il ne faut pas.
D'où ma question, quelles sont les alternatives dans un monde où l'informatique ambiante sont...
pas maintenant.
Comment?
Je n'entends pas maintenant.
Est-ce que c'est mieux maintenant?
Plus ou moins, mais c'est difficile, c'est très difficile. Mais notre remplacement pour logiciel comme service est de faire ton informatique avec ta copie de programme libre.
Mais dans un monde...
Dans ton ordinateur à toi.
J'ai dit au début que je serais d'accord avec vous quoi qu'il arrive.
Je n'entends pas rien.
Ce que je veux dire, j'aimerais savoir le positionnement, votre avis, sur les solutions du fait des coûts informatiques toujours plus élevés pour pouvoir stocker ces données, les sauvegardes des données, etc.
Je n'entends pas pour pouvoir stocker quelque chose, quoi.
Les software de service permet également, offre plus facilement des solutions de sauvegarde.
C'est inutile, je n'entends pas les mots, c'est inutile. De toute manière, je ferai mon informatique dans cet ordinateur pour avoir le contrôle de mon informatique. Si j'avais besoin de plus de capacité, j'achèterais un autre ordinateur.
Libre, ça ne veut pas dire gratuit. Free does not mean that you don't have to pay for it.
Je n'entends pas.
Libre. Does it mean... I'll get to the basics. Usually people think that when it is a free software, you don't have to pay for it. Why is it not true?
Vous savez la définition de logiciel libre. Je l'ai dit au commencement. C'est le logiciel qui vient avec les cartes libres pour l'utilisateur. La liberté numéro 2 comprend la liberté de faire des copies et de les distribuer. C'est-à-dire de les donner ou de les vendre. Donc, un programme libre n'est pas forcément gratuit. Alors, et un programme privateur peut être gratuit, comme par exemple Flash Player.
Alors, je vais essayer d'expliquer la question de mon ami. C'est bon. Well, he said you have answered to that question. That's fine.
Bonjour monsieur, Georges Mimarakis. Est-ce qu'un programme qui est open source, librement distribuable, mais que dans la condition est librement modifiable, mais il y a une condition à la distribution, c'est que la distribution doit être gratuite et seul celui qui a payé, qui a conçu le programme.
Je n'ai pas entendu tout. Est-ce que ce programme, vous dites, est open source? Est-ce que c'est ce que vous avez?
Oui, le programme est open source, distribuable.
Oui, mais ce sont différents. La définition d'open source contient beaucoup de conditions. Il ne veut pas dire qu'on peut voir l'open source. Il est beaucoup plus que ça. Il est presque équivalent à la définition de logiciel libre, mais il y a un peu de différence.
Alors, un logiciel dont on peut voir et modifier le code source et que l'on peut redistribuer, mais à une condition, c'est que seul le créateur du programme peut faire payer la redistribution et que les autres ne peuvent le redistribuer.
La dernière phrase, quand vous commencez à parler vite, je n'entends plus.
Je reprends. La seule condition.
Il y a une condition.
Oui, il y a une condition qui est que le seul créateur du programme a le droit de faire vendre ce programme et que tous les autres qui le redistribuent ne peuvent le faire que gratuitement. Autrement dit, il n'est pas libre.
Ce n'est pas libre et je crois que ce n'est pas open source. Mais je ne me souviens pas complètement des critères d'open source. Mais je crois que ce n'est pas open source.
Merci.
Je vais ajouter une précision à la question. C'est que par libre et par open source, on fait référence à des licences distinctes. La licence libre de la Free Software Foundation, c'est la GPL. La licence open source...
Non, c'est faux. Beaucoup le pensent, mais c'est faux. Il y a au moins 50 licences libres. La majorité des licences open source sont libres et les exceptions s'utilisent rarement.
D'accord. Alors, avec cette distinction, enfin, cet élément que vous voulez préciser, la question de monsieur, en fait, c'est il est sur un modèle inédit de distribution d'une création logicielle. Mais ce modèle ne rentre peut-être pas dans votre modèle de licence libre ou dans le modèle open source.
Je n'ai pas entendu cette fois.
What I'm trying to say is that his situation is a brand new case of software, of license.
Which case? I couldn't hear something. I'm sorry, this is so bad. Il y a beaucoup de distorsions dans la ligne et cette distorsion, et il y a des bouts de silence. Je perds une consonne.
La situation qui vous a été exposée, the situation the gentleman has told you, c'est...
Ah, je n'entends pas. Situation quoi?
Situation. The situation.
Situation.
La situation.
Ah, situation.
This situation is a branded new situation which does not fit the license of the Free Software Foundation nor the license of the open source.
Et c'est confusion. Et nous avons un critère pour logiciel libre. Et il y a aussi des licences libres. Les licences sont libres parce que chacune satisfait le critère. Il y a aussi autre critère d'open source. Toutes les licences libres satisfont.
Satisfont
aussi le critère open source, mais il y a aussi d'autres licences, moins que les licences libres. comme d'être vain, qui satisfont le critère d'open source, mais pas le critère de libre. Donc, vu comme des ensembles de programmes, voici le logiciel libre et voici l'open source. C'est un peu plus large.
Thank you, Mr. Stallman, for your expertise. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes en visioconférence depuis Milan. Je pense que tout l'auditoire a apprécié vos propos. I think everyone was happy to hear you and listen to your speech. Merci de nous avoir fait l'amitié de nous entretenir avec votre philosophie du libre. And as you can see, many people were very had many questions and reactive to this branded new Eldorado that you have launched since 1983. Thank you so much.
Pour la prochaine fois que vous faites une conférence vidéo, je propose d'utiliser une ligne ordinaire de téléphone pour des questions.